Bonjour, il est de ces personnes qui vous font voir les choses différemment. La première fois que Patrice m'a mis dans les mains un livre de Marc-André Seulos, je me suis mis à voir des microbes partout. Le livre s'appelait « Jamais seul » et mettait en lumière l'action des micro-organismes de toutes sortes, levures, virus, etc., dans absolument toutes les manifestations du vivant, en s'attachant à souligner les situations de symbiose où deux organismes trouvent des modes de collaboration bénéfiques aux deux parties. Quelques mois plus tard, le même Patrice m'interpelle « As-tu vu le nouveau livre de Seulos ?» Cette fois, il parle des tanins. Ah, un livre sur le vin ? Pas du tout. Les tanins sont partout, figure-toi. Les feuilles qui rougissent, les tanins. Le bois, s'il est si dur, les tanins encore. Je me suis donc mis à voir des tanins partout. Quand, il y a quelques mois, paraissait le dernier livre de Marc-André Seulos, « L'origine du monde, histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent », il devenait évident que nous devions inviter ce grand homme au micro de la terre à boire, le sol, ce support dont nous parlons et si souvent pour expliquer les arômes d'un vin, les complémentarités entre éléments minéraux et organiques. On apprend encore tellement en lisant ce nouvel ouvrage qui, vous l'avez compris, dépasse de très loin le sujet du vin qui nous occupe ici. Quelle joie donc d'enfin rencontrer et de pouvoir échanger avec une personne qui vous a permis de voir les choses différemment. Ce 84e épisode s'intitule « Marc-André Seulos, le biologiste génial ». Bienvenue dans la Terre à bois. Un cadre un petit peu exceptionnel. Nous sommes installés dans le très somptueux, luxueux, monumental hôtel intercontinental en rue Aubert à Paris. Auprès de Saint-Lazare, à l'occasion, en marge, pourrait-on dire, du salon Biodivin. Et donc, comme je disais en introduction, notre invité est Marc-André Seulos. Bonjour.
Bonjour.
Et à mes côtés, Patrice Defay, bien sûr. Bonjour, Patrice.
Bonsoir.
Bonjour aussi.
Oui, bonsoir. Effectivement, c'est le soir. C'est même la nuit, puisqu'on est en hiver à Paris et qui caille un peu dehors. le salon Biodivin vient de se terminer. Pardon pour le brouhaha que vous entendez sûrement derrière nous. Donc Marc-André Seulos, d'abord on est ravis de vous recevoir parce que vos livres, je vais le dire simplement de la façon dont moi je les reçois quand je les lis, ils sont assez fascinants parce que comme je voulais le faire sentir dans l'intro, ils nous poussent à changer notre regard, à regarder les choses différemment, voire à regarder des choses que habituellement on ne regarde pas. Et j'ai cru comprendre, il me semble que c'est un de vos soucis, un de vos enjeux, comme lorsque vous écriviez sur les microbes, en déplorant dès l'introduction que par microbe, on entend toujours quelque chose de négatif, et vous vous employez pendant les 300 ou 400 pages qui suivent à expliquer en quoi les microbes n'ont pas que du négatif.
Oui, alors merci d'abord pour l'introduction dithyrambique. Je pense que les gens vont être déçus par ce qui va suivre maintenant, avec une telle tête de gondole. Non, mais plus sérieusement, c'est effectivement le but de ces ouvrages qui sont de révéler des choses assez ordinaires qui sont autour de nous et qui, par exemple, sont derrière le vin, mais pas que. Bon, les microbes, les tanins, c'est clair qu'ils sont en embuscade dans le vin, ça c'est sûr. Mais c'est de proposer des visions de ces objets qui, ou de ces mécanismes qui sont autour de nous, qui construisent le quotidien, et dont on n'a pas forcément conscience, même si on voit leurs conséquences. Et en restituant finalement ces acteurs invisibles de nos vies, que sont les sols, que sont les microbes, que sont les tanins, l'idée c'est de redonner aux gens une compréhension de ce qui les entoure, d'abord, et puis une autre façon de voir les gestes qui sont faisables ou pas faisables, d'offrir de nouveaux possibles. Mais réellement, effectivement, l'idée c'est de remplir le programme que Gaston Bachelard, le philosophe des sciences, attribuait à la science, qui est de déconstruire un passé et d'exercer une révolution sur celui qui prend en charge les produits qu'elle propose.
Alors, on va en venir au vin. On va évidemment, dans cette émission, se concentrer sur le vin. Une autre question d'ordre général, quelque chose qui m'a surpris aussi en lisant vos livres, c'est qu'à chaque fois, vous semblez, y compris dans la communauté scientifique, signaler des choses qui vous ont été peu enseignées. Et que vous découvrez quelque chose et vous tirez une fil. Vous dites jamais que vous êtes le seul à les avoir découverts, c'est pas ce que je veux dire. Mais que le rôle des microbes, bon, on passe, tout le monde le sait, mais on en parle assez vite. Et surtout les sols, le dernier ouvrage qui parle des sols, vous dites que voilà, il y a des écoles de pédologie, donc de spécialistes des sols, mais globalement, vous qui êtes biologiste de formation, c'est pas quelque chose sur laquelle on a énormément insisté dans votre formation. Et vous corrigez quelque part un biais de la communauté scientifique qui s'intéressait trop peu à ces questions. Il y en a eu d'autres. Hein,
oui,
le Bourguignon.
Je pense que mes ouvrages sont susceptibles de correction aussi, c'est pas la question, mais ils sont conçus vraiment comme des synthèses et des visions synthétiques. Et c'est vrai que moi, au quotidien, mes collègues scientifiques et moi-même, on construit des visions très approfondies d'une question limitée et d'un domaine précis. Là, il s'agit bien au contraire de proposer une vision d'ensemble et de recouper des choses pas toujours étudiées, mais qui sont importantes. Et en fait, je vais vous dire, le truc de ces livres, c'est qu'ils sont faits avec les questions de mes étudiants. Moi, j'ai longtemps enseigné à l'université, j'enseigne toujours dans le cadre de mes fonctions au muséum. Et je suis toujours très attentif aux questions de mes étudiants. Parce que quand on me demande pourquoi les feuilles sont brunes, par exemple, c'est atrocement évident, mais c'est atrocement pas clair. Et effectivement, quand on trouve la réponse dans la littérature, moi je rapporte pas que mes travaux, j'essaie de synthétiser aussi les travaux des autres, et bien c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui abordent ça, alors même que quand on creuse la question de pourquoi les feuilles mortes sont brunes, on découvre quelque chose d'abyssal, notamment la façon dont les plantes arrivent à construire leur sol avec des molécules particulières ou des états particuliers de la matière morte qui tombe par terre. Donc, l'idée, c'est qu'il y a effectivement des domaines qui sont peu parcourus et qui pourtant sont au cœur de notre quotidien, mais ils ne font pas partie de l'enseignement universitaire ou des connaissances très étudiées, une fois de plus. Même un truc comme la décomposition du bois, et pourtant du bois, il y en a sur Terre, hein. C'est très mal connu dans le détail.
C'est une façon de prendre des transversales, en fait. Comme si les gens allaient, enfin, les scientifiques allaient plutôt à la verticale, à creuser un sujet, et vous prenez une forme de transverse.
Avec comme boussole de retomber sur le quotidien et d'expliquer ce que tout le monde a vu, tout le monde a ressenti, sans forcément se l'expliciter. Mais on n'est jamais très loin de la table, du jardin ou du paysage.
Patrice, pourquoi Marc-André Selosse est invité de la Terre à bord aujourd'hui?
Ah oui, c'est une bonne question, ça.
Écoute, je me la pose. Parce que je pense que après nous aussi, quand on fait la Terre à boire avec le petit œil journalistique et en toute humilité que nous avons, il y a un certain nombre de thèmes qui reviennent, que ce soit la mycorhize, que ce soit les sols, que ce soit les tanins, que ce soit, je pense que ce sera plus le sujet du jour, le végétal. Les complexités et les enjeux qui touchent
le matériel végétal.
Le matériel végétal est effectivement les livres de Marc-André Selosse, et notamment Les Tanins, qui a été mon livre introductif. Hein, j'ai eu Les Tanins en premier par rapport à Jamais Seul. M'ont donné une grille de lecture, une grille de compréhension scientifique sur des choses qui sont parfois un petit peu
tant mieux, c'est
pas
vraiment
appréhendables et ésotériques. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des bouquins agréable, moi qui m'ont donné l'impression d'être intelligent, c'est-à-dire.
Mais ça, en plus, c'est pas un hasard. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est comme ça. On est tous pétrifiés devant la science, alors
exactement.
Que la science, c'est un vrai festin.
Moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas, et sans flagornerie du tout, c'est cette dire en disant, c'est compliqué. Tout ce qu'il me dit, c'est compliqué. On peut encore aller chercher un peu plus loin si on veut, au-delà de ces bouquins, mais ça me donne quand même une grille d'analyse et une compréhension assez, comment dire, simple. Et avec une grille d'analyse assez digérable de sujets extrêmement complexes. Donc voilà pourquoi. Et le fait que ce soit des histoires naturelles aussi. Parce que la lecture est agréable. C'est pas. Enfin, vous y mettez pas mal d'humour, pas mal de dessins, etc. Et je trouve que l'objet est tout à fait digeste, tout à fait comestible et même agréable à manger. voilà.
Donc, tout à fait.
Pourquoi pourquoi
vous n'avez quand même pas goûté le livre?
Non,
vous n'avez quand même pas mâché le livre?
Pas encore. J'imagine qu'il y a des tanins parce qu'il y a de la lignine à l'intérieur.
Ça, oui.
Si c'est du papier.
Je pense que...
Mais il y en a. et sur le sujet du jour, parce qu'on pourrait aborder 150 sujets par rapport à l'ensemble de vos ouvrages, en fait, c'est Gabriel Lépouzé qui m'a mis un peu sur la. Qu'on avait interviewé par rapport à. Comment notre cerveau
quelqu'un de remarquable. Et remarquable d'exactitude aussi, ce qui est une grande qualité.
Il nous a passionnés.
Il nous a passionnés pendant deux émissions. Il m'a mis aussi sur la voie de vos livres et de votre approche aussi, on va dire, ou l'angle qu'on pouvait aborder par rapport au vin. Et c'est vrai que le sujet du jour a peut-être lié au matériel végétal. La vigne. Qu'est-ce que la vigne? Mais surtout, qu'est-ce que la vigne cultivée par rapport à sa nature première et j'aurais tendance à dire primaire?
Alors, c'est l'histoire d'une totale métamorphose, hein, parce que la vigne sauvage, c'est une liane qui grimpe dans les arbres et qui pousse dans des sols humides.
Des cours d'eau.
Des cours d'eau ou des sols de forêt avec une bonne réserve en eau. À tel point d'ailleurs que les vignes sauvages existent toujours, elles ne sont pas malades du phylloxéra. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des situations de sol où, justement, on sait très bien que l'inondation des sols en hiver, ça permet de lutter contre le phylloxéra. Il y a beaucoup de domaines, d'ailleurs, qui, à une époque, ont lutté contre la phase racinaire hivernale du phylloxéra en inondant les champs. Et en fait, dans son écologie spontanée, la vigne sauvage, elle est dans des sols extrêmement humides où elle n'a pas d'ennui avec le phylloxéra. Ce qui fait qu'on a encore, alors même qu'elles ne sont pas greffées, des tas de populations de vignes sauvages. Sol humide, elle grimpe dans des arbres, elle est donc plutôt à l'ombre, et elle va chercher la lumière dans la canopée des arbres. Et en plus, y a des pieds mâles et des pieds femelles. Il y a des pieds mâles qui font que du pollen, et des pieds femelles qui vont porter des raisins en petit nombre sous une grappe très dégingandée. Hein. Et alors, la vigne cultivée, elle, c'est complètement différent. C'est un arbuste en sol sec qui a retrouvé une propriété des ancêtres. D'avoir des fleurs hermaphrodites qui font du pollen et puis ce qu'on appelle le pistil qui va permettre la fécondation et donner les grains de raisin. Donc oui, quand on plante un pied de vigne, c'est bon, on est sûr d'avoir des raisins. Et qui, alors, pour le coup, vit dans des conditions extrêmement stressantes par rapport à ses ancêtres. Alors certes, dans la domestication, il s'est adapté à ses sols secs, à la taille qu'on fait, au fait d'être en plein soleil. Mais néanmoins, il n'en reste pas moins qu'il a besoin de se défendre contre un éclairement très fort, contre les dégâts cellulaires qu'entraîne finalement le fait de vivre dans un sol sec, ce qu'il fait notamment en fabriquant des tanins. Et les bons terroirs pour le vin, c'est des terroirs où la vigne souffre un peu. Alors pas trop, sinon elle ne donnerait pas de raisin, mais elle souffre un peu. Donc c'est une vigne complètement métamorphosée effectivement par l'homme, qui fait en plus des raisins énormes, parce que comme nous la taillons, elle a peu à entretenir son appareil végétatif, branches, troncs, rameaux, et elle a beaucoup d'énergie dévolue. Alors ça c'est un truc qu'on retrouve avec la taille des fruitiers d'ailleurs. Elle a beaucoup d'énergie dévolue à la reproduction, puisque l'entretien de sa carcasse, qui est amoindrie, lui coûte moins.
Et elle a plein de tanins.
Et alors effectivement, d'abord, on voit très bien dans le génome de la vigne qui a été séquencée, on voit très bien qu'il y a un fort développement lors de la domestication des gènes liés à la synthèse de tanins ou de terpènes, qui sont des composés aromatiques qu'on retrouve par exemple dans les muscats, hein, qui font les notes muscatées. Mais il y a aussi des conditions environnementales qui vont la pousser à des conditions environnementales et aussi de conduite par l'homme qui vont la pousser effectivement à avoir de fortes concentrations dans ces composés qui sont protecteurs mais qui sont aussi des composés goûtés. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils sont goûtés, parce que parmi les nombreux rôles protecteurs qu'ils ont, c'est des composés qui en grande concentration sont toxiques pour l'homme. Alors, je suis pas en train de dire que la vigne est toxique pour l'homme, mais ça a sélectionné de notre côté la capacité à goûter ces produits pour pouvoir les éviter en excès. Je veux dire, par goûter, j'entends à la fois pouvoir les détecter à l'odeur et éventuellement en bouche par l'amertume. Et donc, nous sommes sélectionnés pour être goûteurs des tanins, des terpènes, et ça nous prépare, là où ils sont en petite dose comme dans le vin, à y trouver des sensations que nous pouvons apprendre à aimer.
Très clair. Sachant qu'un tanin, je ne vais pas donner la définition absolue, mais c'est plutôt une molécule organique autour de phénol, donc ce sont des benzènes, voilà. Avec 6 carbones, ça ressemble en gros à un hexagone, 6 carbones.
Et une petite fonction alcool, OH, fixée dessus.
Une fonction hydroxyle, comme vous dites.
Donc moi, je suis souple, hein, j'appelle tanin tout ce qui porte phénol, ouais. Les monophénols, les polyphénols.
Le cycle aromatique. Donc,
et porte effectivement, ce fameux cycle aromatique qui est en fait pas très très bon pour la santé en moyenne, mais tout dépend de la dose. Hein. Et effectivement, moi j'ai une définition très inclusive des tanins, parce que je me suis dit que plutôt que de parler de phénol et de polyphénol, mieux valait réutiliser ce mot-là, sachant que la définition des tanins, d'ailleurs, elle, selon les auteurs, vous savez, les tanins d'un tanneur de cuir et les tanins d'un œnologue sont très différents entre eux et très différents des tanins du chimiste. Donc moi, j'ai foutu tout dans le même sac, pour faire simple, mais néanmoins, il est sûr que ce sont des composés de défense et de réponse au stress qui permettent notamment de détruire les radicaux libres et les molécules oxydantes qui se produisent lors des stress. Et ces molécules-là sont vraiment accumulées à la fois dans les variétés que nous avons sélectionnées, pensez au tanate par exemple, hein, qui est très riche en tanate, mais aussi poussées par les conditions de culture que nous avons imposées à la vigne. C'est vraiment une transmutation, et je vais vous dire, cette transmutation de la vigne, pour revenir à ce point-là, elle est telle qu'aujourd'hui, il y a des telles différences de stade de floraison qu'il n'y a pas de croisement et nos vignes sauvages sont encore purement sauvages et peu mélangés génétiquement à la vigne cultivée qui est à côté. On a vraiment transfiguré la vigne et pour le plus grand bonheur aussi de nos papilles.
Tout à fait. Dans les je dirais, dans l'action de l'homme sur la vigne, il y a beaucoup, effectivement, les sélections, mais il y a aussi sa taille qui est très contrainte. On l'a sélectionné beaucoup, en tout cas en Europe, à partir de, c'est pour venir un peu sur les sujets de gènes, de génome, mais autour de Vitis vinifera, et beaucoup contrainte aussi par la taille. Malgré tout, il y aurait d'autres possibilités que de travailler qu'avec Vitis vinifera et que de tailler la vigne que de cette manière-là.
Oui, alors ça appelle beaucoup de commentaires. D'abord, effectivement, on place souvent la domestication en termes de sélection par l'homme de très intéressant, mais on voit bien qu'avec la taille, la forme domestiquée est aussi une sculpture. On peut parler de sculpture. D'ailleurs, quand on voit certains cèpes, hein, c'est très joli. Moi, Anselme Solos a essayé de m'apprendre la méthode de taille champenoise qu'il utilise. J'ai rien compris à ce qu'il faisait, mais lui, il sait très bien ce qu'il fait. Le produit est toujours très homogène en forme. Donc, il y a un art de la taille qui est pour beaucoup dans la forme cultivée. Tout n'est pas génétique ici. Après, effectivement, et si on pense en ressources génétiques, la domestication de la vigne est un peu un paradoxe. Elle se fait en Europe, où il n'y a qu'une seule espèce de vigne, Vitis vinifera, avec la forme sauvage qui a de tout temps existé et qui coexiste aujourd'hui avec la forme cultivée. Alors c'est Vitis vinifera, variété sylvestris pour la forme sauvage et variété vinifera pour la forme domestiquée. Mais c'est paradoxal parce que c'est là que la vigne était la moins différenciée, la moins riche en espèces. Si vous allez en Asie ou si vous allez en Amérique, vous avez plusieurs dizaines d'espèces de vignes. Et en fait, les creusets de diversité sont asiatiques et américains. D'ailleurs, la vigne européenne, notre Vitis vinifera, ou on devrait dire la vigne méditerranéenne parce que son aire s'étendait de l'Atlantique au Moyen-Orient. Vitis vinifera est une espèce isolée qui est un rejeton qui s'est individualisé il y a 7-8 millions d'années, des vignes asiatiques. Et ça, c'est une particularité, et ça a été une force de cette vigne. Elle s'est barrée loin de chez elle en laissant ses emmerdes à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, elle est partie dans une zone où il n'y avait pas de vitis et où il n'y avait pas de maladie de vitis. Donc, la vigne, finalement, n'avait pas beaucoup de pathogènes en Europe. Il y en avait, bien sûr. Les Romains s'en plaignent. Mais dans les zones d'origine asiatique et en Amérique, là, il y a beaucoup d'espèces de vitis et il y a beaucoup de maladies. Et avec les échanges commerciaux, nous avons ramené ces maladies. Il faut bien réaliser que vers 1850, l'oïdium s'introduit en Europe avec une catastrophe qui fait qu'on va commencer à essayer d'introduire des vitis, des espèces de vitis venues d'Amérique, là où est l'oïdium et là où il y a une résistance à l'oïdium, parce que ces vignes-là coexistent avec l'oïdium depuis longtemps. Et en ramenant ces plants, on va ramener le phylloxéra. On ramène aussi le mildiou d'Amérique. Bref, avec les échanges commerciaux, on va aller repiocher les maladies dont s'était échappé Vitis vinifera et qui prolifère encore en Asie ou en Amérique. Sauf qu'entre-temps, Vitis vinifera a perdu la résistance à ces maladies et ça va poser des problèmes catastrophiques comme la crise de l'oïdium, puis la crise du phylloxéra et le fait qu'aujourd'hui encore, pensez à l'an dernier, on a des gros problèmes avec le mildiou. En fait, ça a été une chance pour la vigne, mais avec nos échanges commerciaux, les ennuis sont revenus.
Et c'est ce que vous appelez, le problématique de la coévolution.
Absolument.
C'est-à-dire
quand vous avez une maladie,
les pathogènes ont évolué, mais plus rapidement que le génome ou que les mesures, les capacités de protection de vitis vinifera européenne.
Les capacités de protection des vitis américains et des vitis asiatiques sont par définition bonnes parce que n'ont survécu que les individus qui étaient résistants à la maladie. Mais quand ces maladies arrivent en Europe, il y a très longtemps qu'il n'y a plus de sélection sur la vigne pour résister à ces maladies, et bien plus. Et là, il faut vraiment y penser. Ce qui fait de la diversité, c'est la reproduction sexuée. C'est le fait avec un papa, un maman de faire un gamin. Si vous avez des enfants, vous aurez repéré qu'ils ne sont pas, ils sont héritiers de traits de leurs parents, mais ils sont différents. Ça fait de la différence très rapidement. Et quand vous avez une population qui se reproduit de façon sexuée, et je vous rappelle que c'est le cas de la vigne sauvage, eh bien, très rapidement, vous avez des individus différents. Et là-dedans, vous pouvez sélectionner des résistances, des individus qui sont plus ou moins résistants. Nous, on clone. Et on clone une vigne, on clone des cépages qui sont pour la plupart en Europe apparus avant justement ces maladies. Mmh. Donc on propage l'état de sensibilité et on n'a plus de variabilité génétique, de variation génétique qui pourrait permettre de produire des résistances.
Pour expliquer en deux mots peut-être la coévolution, je vous laisse prendre la parole. C'est-à-dire que les pathogènes ont continué à évoluer, mais le greffage et le clonage induit qu'on a des défenses immunitaires, comme le principe des antibiotiques, etc., etc., beaucoup plus faibles, et donc une résistance plus faible aux pathogènes qui ont évolué. Je pourrais expliquer en deux mots la coévolution, peut-être.
Bah, c'est ça, oui. Le truc, c'est que la coévolution, c'est surtout une histoire d'accident, quoi. C'est quand vous avez une nouvelle maladie qui apparaît, bah, tous ceux qui sont sensibles meurent, et il reste que ceux qui sont résistants, pour des raisons génétiques. Et ça, c'est, bon, et quand ils font des enfants, bah, ces enfants sont plus ou moins résistants et le tri continue. Cependant, le pathogène, lui, s'adapte. On sait très bien en ce moment, par exemple, que certains virus sont capables de muter pour s'adapter. Donc il y a une course-poursuite entre les partenaires, mais la course-poursuite est lancée depuis longtemps avec des vainqueurs des deux côtés en Amérique, entre le mildiou et les vitis américains. Par contre, nous, on a une vigne qui n'a jamais été sélectionnée pour ça, qui se prend le mildiou dans la tête, et en plus, elle, c'est une cible immobile. Elle n'évolue pas. Elle ne fait pas des enfants différents, puisqu'on ne reprend pas les pépins. C'est toujours les mêmes clones. Et qu'on ne vienne pas me dire que la sélection massale est une solution. Parce que la sélection massale, elle repose sur des petites variations à l'intérieur des clones, des petites variations à l'intérieur de ces vignes qu'on bouture ou qu'on greffe.
L'évolution est trop lente, en fait, par rapport à la rapidité d'évolution des pathogènes.
Ce n'est pas des innovations majeures. Et les pathogènes, ils courent très vite, derrière une cible immobile. Mmh. Et ça, ça débouche sur mon combat pour ne pas se fermer la porte à des cépages hybrides ou issus d'hybrides.
Deuxième point que vous évoquiez aussi, enfin deuxième dans les livres et dans vos différents écrits, c'est la problématique du greffage. Là, on a parlé de la, qui pareillement fige un peu la vigne.
Ah bah elle a permis
dans
de
son état.
Elle a permis de sauver la vigne d'Europe et ses cépages, puisque les cépages européens avaient cette caractéristique un peu par hasard de pas être très sensibles aux phases foliaires du phylloxéra. Par contre, ils sont sensibles aux phases racinaires. Les vignes américaines, c'est l'inverse. Les phases racinaires sont peu actives. Et donc,
des racines très dures. Elles ont des racines très dures.
Bah, c'est leur stratégie.
C'est leur force.
Et du coup, le puceron, parce que le phylloxéra est un puceron, quand il descend sous terre, il a bien du mal à s'installer. Mais quand il ressort de terre, les quelques-uns qui ressortent de terre prolifèrent sur les feuilles de la vigne américaine. D'ailleurs, si les porte-greffes sont souvent d'origine américaine ou des hybrides entre espèces américaines, et quand ils font des feuilles, vous pouvez voir énormément de galles de phylloxéra sur les feuilles. Donc, on a fait un espèce de montage, on a pris les vignes américaines, on a pris leurs racines qui sont résistantes à la phase hivernale.
Une chimère, une vigne chimérique en fait.
Et on a remis dessus nos cépages historiques, on a fait une chimère, mais si chimère c'est noble, hein. Pensez à Frankenstein. Pensez à l'image de Frankenstein. On a fait une
Disons qu'au début c'était une chimère et puis de plus en plus ça devient Frankenstein. C'est plutôt ça.
On a fait du raboutage alors qu'il y a un tissage fin des propriétés des parents qui est la reproduction sexuée. C'est le programme des hybrides. Il y a un papa qui est européen et qui a les qualités européennes d'un côté, et il y a un papa qui est européen, enfin une maman ou l'inverse d'ailleurs, qui est européenne et qui a des qualités des vins d'Europe. Et on mélange les deux. La première génération n'est pas très réussie. Mais justement, les fameux raisins durs de première génération, les résistances durables, les raisins à résistance durable qu'a produit l'INRA, Vidoc, Artaban, Voltis, ont été de nombreuses fois, ce sont des hybrides qui ont été de nombreuses fois recroisés avec du Nifera. De telle sorte que finalement, ils n'ont plus que 2 à 10% de leurs gènes qui viennent d'Amérique. Et ce sont vraiment des cépages construits à l'européenne par ailleurs. On a donc ici fait un mélange très fin, beaucoup moins grossier que la greffe, de gènes issus de cette longue coévolution qu'il y a eu avec les pathogènes en Amérique, qu'on a gardé dans ce métissage, dans un fond génétique qui est très largement à plus de 90% européen. Alors je ne dis pas que ces résistances dures de première génération font du bon vin, encore qu'on n'a pas cherché exactement quel terroir et quelle pratique de vinification ferait du bon vin.
On n'a pas encore le recul.
C'est la porte ouverte, il ne faut pas jeter cette porte au nom d'une mythique pureté génétique de la vigne. La pureté génétique, vous savez, en biologie, il n'y a que des hybrides qui survivent dans les longtemps évolutifs. Il faut vraiment se garder la porte ouverte à récupérer ces gènes américains, parce que ces cépages hybrides, c'est quand même 4 fois moins de passages dans la vigne, c'est quand même 3 fois moins de produits pesticides épandus, puisqu'ils sont résistants. Et ça, non seulement c'est meilleur pour les sols et les écosystèmes, mais c'est aussi meilleur pour ceux qui manipulent ces produits et ceux qui consomment le vin. Et donc, il ne faut surtout pas... Il faut penser pépin aussi.
Penser pépins.
Nouveaux cépages issus de reproduction sexuée.
Alors, vous ouvrez en fait des perspectives parce qu'aujourd'hui, donc on le dit en creux, la pratique c'est un pied d'origine américaine sur lequel on greffe une vigne d'origine européenne avec un cépage, voilà, parmi les cépages centenaires qu'on connaît, qu'on cultive. Aujourd'hui, la vigne, elle fait face à un certain nombre de périls, ceux qu'on connaît déjà bien, l'oïdium, le mildiou, phylloxéra, voilà, des attaques fongiques, tout un tas de périls. Il y a un nouveau péril, enfin nouveau pas exactement, mais qui est grandissant en tout cas, c'est le manque d'eau. Oui. La sécheresse, le réchauffement climatique qui fait que nos vignes du sud de la France, certains cépages, on sait déjà que la Syrah, ça devient de plus en plus compliqué de la planter dans la vallée du Rhône par exemple, et alors que c'est là qu'elle est aujourd'hui la plus présente. Face à ces nouveaux défis, vous vous dites, il y a une option qui est très peu explorée par la viticulture, qui est celle d'hybrider et de créer de nouveaux plants, de nouveaux cépages, en quelque sorte. Alors, c'est aujourd'hui le cas, ça existe. Il y a ces cépages hybrides.
Oui, qui sont... Oui. Et puis, dans l'Europe, il y a énormément de cépages hybrides qui ont été développés. Hein. Je pense, par exemple, à des choses comme Solaris, hein, qui fait des vins assez agréables.
Donc, ça implique un horizon qui est difficile de dater, de... renouveler en fait les cépages et d'introduire progressivement.
Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de sélectionner. Ça se fait à l'échelle d'une région, de sélectionner des cépages pour le lendemain. Mais là, vous avez raison, c'est qu'il y a un deuxième problème effectivement qui pointe le bout de son nez, c'est le changement climatique. Et ce changement climatique, on a d'un cépage à l'autre, bon, en gros, il faut des cépages beaucoup moins précoces, des cépages tardifs, qui vont occuper tout le temps et pas mûrir trop vite et finir de mûrir vers l'automne dans des conditions qui sont propres à l'accumulation de tanins intéressants. Ces cépages tardifs, on connaît des cépages tardifs qui sont d'anciens cépages, peu utilisés, justement parce qu'ils mûrissaient trop tard. Et il y a une vraie réserve de diversité dans ce qu'on appelle les cépages modestes. Je fais partie d'une association, les cépages modestes, qui justement étudie et déguste, essaie de comprendre tous ces cépages qui ont été un peu perdus, notamment après le phylloxéra, et qui sont un réservoir intéressant de diversité par rapport à la précocité, aussi par rapport à la résistance. J'entends dire, bien que le vin qu'on en fait soit pas si bon, par un ami bordelais, Jean-Baptiste Duquesne, que son Jurançon son noir, alors lui il explore, il va bientôt sortir un bouquin d'ailleurs sur les cépages modestes du bordelais, son Jurançon son noir a bien résisté au mildiou. Mais la variabilité et la diversité des traits de résistance d'une part et de précocité ou de tardivité au sein de l'espèce vinifera sont moindres, l'amplitude de variation est moindre que celle qu'on a à prendre dans d'autres vitis non vinifera. Et on peut amener là des gènes qui permettent une plus grande variabilité. Vous avez raison, le changement climatique s'ajoute à la pression des pathogènes pour dire il va falloir bouger. Anticipons, commençons à tester et par pitié, que le juge de paix ne soit pas la pureté génétique. On sait comment ça pue dans certains domaines, ce concept de pureté génétique. Hein. Non, mais il faut regarder les choses en face. En biologie, tout est métissage et hybridation. Donc, oublions la pureté génétique et pensons au juge de paix qui est la qualité du vin.
Pour faire écho à ce que vous disiez, j'ai eu la chance tout à l'heure de la Biodivin de discuter avec Emmanuel Giboulot qui me parlait en Bourgogne du Pinot Beureau qui par rapport au Pinot Gris existe depuis 1400, enfin son existence est avérée depuis 1400 et il n'est pas permis dans l'AOC Bourgogne et il y a même... c'est juste pour rebondir sur les cépages oubliés et puis sur les AOC.
Oui, donc c'est un cépage modeste, effectivement,
AOC,
oui.
Mm-hmm. Où vous dites aussi que les AOC ont un peu figé.
On va venir aux AOC. Ouais. Faisons juste toute petite pause parce qu'on savait, on a une habitude dans cette émission, c'est de goûter des vins.
Je vois les bouteilles là qui attendent.
Ce qu'on est en train de faire. Quel est ce premier vin qui est blanc et qui a une couleur sublime?
Comme on a Biodivin aussi.
T'en as profité. Hein.
Voilà, j'en ai profité un petit peu. Et il y a donc la Tenuta. Il y a très peu de domaines étrangers chez Biodivin, puisqu'ils sont en tout cas présents ici, il n'y en a que deux. Et donc il y a un domaine en Toscane, ça s'appelle Tenuta la Novella, Simone Zemella, qui nous a gentiment offert une bouteille de blanc qui s'appelle Sambrena Bianco, donc qui est en IGP. Pourquoi ? C'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce qu'il vinifie le Sangiovese en blanc. Donc c'est un blanc de noir. 50% Sangiovese et puis après 50% entre Muscat, Trebbiano, il faut que je trouve le troisième cépage mais ça va me venir. Et effectivement c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors il m'a juste expliqué effectivement que en fait pour exploiter une parcelle qui était très au nord mal exposé, qui n'avait pas la possibilité de faire de Sangiovese en rouge pour exploiter cette parcelle, et ben voilà, il a eu l'idée de vinifier ce Sangiovese en blanc de noir, donc il cueille à faible maturité, 10 degrés et demi à peu près, et il vient l'assembler quand même, comme il est quand même beaucoup d'acidité, avec des cépages un peu aromatiques, notamment le muscat, pour donner ce vin là donc il s'appelle Sambrena Bianco 2019 Tenuta la Novella. Et donc merci à Simone Zambella de nous avoir gentiment, gracieusement offert ce vin.
C'est un produit étrange. Hein. Le premier nez était vraiment pas génial. Et puis là, maintenant qu'il s'est ouvert, hein, y a des notes lactiques et de diacétyl qui sortent. Hein. Je suppose, mais je vais peut-être dire une bêtise, qu'il a fait ça Malo, parce qu'il y a vraiment des nez de bactéries acétiques. Bon, en tout cas, même si c'est pas
très
le
lacté,
cas,
en tout cas. Je pense que la Malo a été faite. Ouais.
Oui. Et puis, il y a ce côté qu'ont souvent les blancs de noir, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de race assez particulière des tanins, hein, une espèce de noblesse mais un peu fermée, qui résulte du fait qu'il faut bien voir que... Ah oui, alors tiens, on ne l'a pas dit dans la domestication, une des choses qui s'est passée, c'est la variation de couleur. On a commencé à avoir des raisins blancs qui ont muté pour la production de tanins, puis des raisins rosés qui, en fait, sont un peu revenus en arrière, mais pas complètement. On a aussi des trucs encore plus compliqués qui sont les cépages gris, comme le
Pinot Gris. Ils ont perdu un chromosome, ceux-là, c'est ça?
Alors, c'est compliqué. il met pas partout, dans certaines cellules seulement. Enfin, donc, alors, c'est vrai, c'est passionnant à étudier, mais tout ça, c'est aussi une diversité liée à la domestication. Mais quand on fait un cépage blanc, globalement, le fait de ne pas produire d'anthocyane va un peu freiner toute la voie de synthèse des tanins, y compris ceux qui, sans avoir vraiment de couleur, ont des présences aromatiques, aussi bien au nez qu'en bouche, au niveau de l'amertume et de l'astringence. Et par contre, quand on fait un blanc de noir, ben, dans la baie, là, on a une dérépression plus forte. Il y a des synthèses d'anthocyane et ça correspond à des niveaux plus élevés de synthèse des autres tanins aussi. Et donc, un blanc de noir n'est pas un vin blanc. C'est autre chose. Et là, on le sent très bien. C'est des choses parfois un petit peu ingrates, hein. Mais là, elles sont intéressantes. Il y a des tanins et une amertume plus forte que sur les blancs.
Beaucoup d'acidité,
de blanc. Vin,
beaucoup de tension.
Les blancs
de
noir sont très utilisés en champagne, sur les pinots, etc.
Oui, mais on retrouve ça justement dans les champagnes. Alors, modulo le fait que souvent les maturités sont quand même moindres et les tanins moins exprimés. Mais...
Alors, venons-en à cette question des appellations, parce que maintenant qu'on a introduit que peut-être un des axes, c'est d'introduire des nouveaux cépages, déjà de... peut-être remixer les cépages par rapport à l'endroit où ils sont exploités, voire introduire de nouveaux cépages, comme vous le dites, ne pas se fermer la porte pour faire face aux grands défis qui attendent la viticulture et auxquels elle est déjà confrontée. Face à ça, on a un système d'appellation qui fige par rapport à un terroir, un endroit qui verrouille le fait de vinifier certains cépages, certains assemblages. Et on sait, d'une part, c'est figé, et d'autre part, on sait que ça prend énormément de temps à faire évoluer. C'est-à-dire que si on parle avec des vignerons...
Ça dépend ce qu'on en décide de faire.
Du côté du vigneron, qui souhaite, par exemple, ajouter un vin blanc dans son appellation, introduire un nouveau cépage, alors là, c'est un combat dont il sait d'avance qu'il va prendre 6 ans, 10 ans, 20 ans.
Et certains, d'ailleurs, sortent de l'IGP ou de l'AOC.
Et on a donc ce phénomène de vignerons qui souhaitent s'affranchir des AOP pour faire le cépage qu'ils veulent à l'endroit où ils le souhaitent, mais du coup, se privent aussi de cette ombrelle qui est quand même favorable.
Ils font des IGP, mais ça veut dire du coup que l'AOP ou le système des AOP ne joue pas le jeu ou n'a pas pris conscience des nécessités évolutives.
Il ne faut pas le juger de façon anachronique. Au moment où il se développe, il essaie de sélectionner les bonnes pratiques et de les imposer à grande échelle, et il a eu son rôle. Mais le problème, c'est qu'il est peu évolutif, et vous avez raison de dire que l'évolution se fait lentement de ce système. Or, on a quand même besoin d'évolution. Après tout, le Cabernet Sauvignon, qui porte bien son nom, nous disent les généticiens, puisque c'est un hybride de Cabernet et de Sauvignon, quand il est apparu, il y a quelqu'un qui a planté un raisin. Enfin, je veux dire, qui a planté une graine et qui a ensuite gardé cette graine. Alors ça, c'est vraiment important à avoir en tête. C'est qu'on a eu un processus perpétuel de recrutement de cépages. Soit par des gens qui se baladent. Je me souviens, Henri Galinier, un des spécialistes des cépages modestes, nous expliquant l'Auvergnat, cépage de la Loire, qui a été nommé comme ça parce qu'il venait d'Auvergne. Quand on va le chercher en Auvergne...
Dans son appellation.
Alors, quand on va le chercher en Auvergne, là-bas, il l'appelle le Bourguignon. Parce qu'en fait, il vient de Bourgogne. Et vous savez quoi ? Bah, c'est le Pinot Noir. Donc, il y a eu des balades comme ça, et puis il y a eu aussi des ouvertures à des pépins, il y a eu des changements perpétuels. Dans la vinification aussi, je veux dire, à un moment, on a inventé la mèche hollandaise et elle s'est propagée, on a commencé à faire des vins protégés, beaucoup plus protégés de l'oxydation. Donc, l'histoire de la viticulture est une évolution culturelle et biologique. Biologique du matériel biologique et culturelle des pratiques. C'est une évolution. Et aujourd'hui, finalement, figer tout ça, c'est si on n'est pas capable d'assouplir et de changer rapidement ces règles, au fur et à mesure que de bonnes idées viennent, et pas à n'importe quel prix. Je l'ai dit, le juge de paix, c'est la qualité du vin. Mais si on n'est pas capable d'assouplir ça, l'évolution s'arrête. Or, le vin et le lien de l'homme au vin, ce n'est pas un fait, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas une liste de cépages, une liste d'AOC ou d'AOP. C'est une continue évolution, c'est de l'innovation, c'est de la recherche d'une qualité, une qualité différente au fur et à mesure que le goût change. Et ça, en fait, le risque, c'est le même risque qu'on aurait couru si après avoir fait Notre-Dame, on s'était dit c'est trop beau les cathédrales gothiques, on n'a pu faire que ça. Et on n'aurait pas eu Versailles, on n'aurait pas eu la Tour Eiffel.
Ça aurait été dommage.
Voilà, c'est le vin, c'est de la culture au sens culturel. Et la culture, c'est comme le vivant, ça évolue, ça se métisse, ça change. Et ceux qui ne l'actent pas sont juste condamnés aux oubliettes de l'histoire.
Pour continuer sur cette logique-là, bon, déjà, on va finir en verre, on va boire le deuxième vin. Alors, deuxième vin qui est sous votre...
Ça, ça a bien commencé, là.
Alors,
le deuxième, c'est un peu une déclaration d'amour à un domaine que j'aime bien, parce que vous m'aviez demandé lequel... Quel vin
c'est vous qui l'avez choisi. Oui.
Et nous descendons dans le sud de la France.
Ouais, donc Massamiel cuvée L. Alors bon, on est sur Biodivin et il n'avait qu'une cuvée assez jeune, 2020, pour la cuvée L. Donc il sera probablement un petit peu jeune.
La mise est sans doute récente en plus. Hein. Il y a des nez aldéhydiques.
Alors extrêmement prononcés. Traduction.
Bah en fait, ça sent presque le Beaujolais nouveau, mais en bien, mais
oui, le bonbon anglais, le bonbon harlequin, c'est ça?
Des notes, oui, des notes isoalmiliques. Non, mais ça, c'est parce que la mise est récente, parce que pour le coup, eux sont plutôt dans les tanins de fond, si j'ose dire.
Bon, j'aurais...
Je vais poser une...
Alors, Massamiel qui m'a...
Vous sentez là, hein,
Gentiment offert cette bouteille.
Hyper fruité, là.
Et j'en suis ravi, c'était une de ses dernières, mais il me l'a donné pour l'émission et pour vous.
J'en profite pour
merci
vous
à Nicolas Raffi.
Poser une question qui est un peu évidente, mais à titre personnel, vous êtes passionné de vin?
Ben, je pense que ça s'est senti là déjà. Oui,
j'adore
ça.
C'est quoi cette question?
Non, mais j'adore ça. Enfin, chaque fois qu'on ouvre une bouteille, c'est un continent de sensations différents. Et puis quand on le fait avec des gens qui aiment le vin ou qui le produisent, c'est des tas d'histoires qu'on apprend sur des cépages, des productions différentes. Enfin bon, moi, au Massamiel, par exemple, j'adore voir leurs bonbonnes là qui sont disposées devant le domaine. Hein, ou alors on a une maturation au soleil, ce qui change complètement les choses.
Pour les vins vintage, à la façon un peu Collioure, on va dire,
exactement,
au Bagnols.
Exactement, oui. Alors,
c'est dans les Dames Jeanne.
Dans les Dames Jeanne, complètement au soleil. Enfin, et voilà, il y a une diversité qui est une diversité culturelle, mais je pense que vous commencez à le sentir. Pour moi, il n'y a pas de rupture entre la diversité culturelle et la diversité biologique. Quelque part, la diversité culturelle est une forme de diversité biologique, et un biologiste s'intéresse à toutes les diversités. Il ne se prive d'aucune d'entre elles.
Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce vin nouveau, Massamiel? Comme disait Gabriel Le Poussé, est-ce qu'il nous déroule un film? Ou est-ce qu'il nous raconte juste une histoire courte?
Ben là, vu son âge, c'est plutôt un teaser. Hein.
C'est bien dit.
Une bande-annonce.
C'est ça.
Parce que les notes fruitées, je pense qu'elles ne sont pas amenées à persister. Et par contre, on sent des tanins derrière. Ils sont quand même relativement légers sur ce millésime. Hein.
Exactement. On est sur 80% grenache noire et 20% carignan, hein, pour info, en termes de... Et des sols schisteux, on est dans la vallée de la Glie, qui est une des fortes caractéristiques
du Roussillon. On sent la patte du domaine dans des tanins qui sont effectivement une astringence très forte. Hein. Il y a un râpeux là.
C'est assez chaud. Ouais.
Et qui l'a sur ce vin jaune. Et un râpeux et un amer, d'ailleurs. Oui, je pense que l'amer est très net. Mais ça, c'est vraiment l'histoire des vins. Les grands vins, quand ils sont jeunes, ils sont pas intéressants parce que, en fait, c'est l'oxydation ménagée des tanins qui va transformer ces tanins phénoliques qui ont de l'amertume et de l'astringence, des choses qui nous permettent de les détecter et qui font que, quand nous étions dans la nature, nous évitions de manger trop tannique parce que c'est pas bon pour la santé, ça coupe la digestion, tout simplement. Ces tanins, disais-je, qui sont phénoliques, vont petit à petit au contact de l'air s'oxyder et donner des quinones. C'est-à-dire qu'en gros, la fonction alcool des tanins se transforme en fonction cétone. En fonction cétone.
C'est ce qu'on veut dire quand on dit les tanins sont bien fondus ?
Eh bien, c'est ça. Et à ce moment-là, non seulement vous perdez l'astringence, en tout cas les moins fortes, alors il y a plusieurs phénols, donc il y en a qui peuvent continuer à donner de l'astringence et des sensations mécaniques en bouche. Mais vous perdez l'astringence qui vraiment est cette rigidité en bouche.
Sensation mécanique parce qu'il se lie aux protéines et c'est ça qui fait que les protéines de la salive et de la bouche.
Ça fiche en l'air les protéines lubrifiantes de la salive et vous sentez enfin votre raideur. Donc vous perdez ce côté-là et l'amertume pour avoir des tanins qui, quand ils sont sous cette fameuse forme cétonique, quand les phénols sont sous forme cétonique, c'est moins soluble dans l'eau. C'est donc plus volatile. Ça va donc s'échapper plus et monter plus dans l'arrière-nez ou dans l'olfaction directe, ça va se sentir plus.
Et donc plus d'arôme.
Le vieillissement du vin, c'est la transformation de l'astringence et de l'amertume en arôme. Et là, on est au tout début de ça, c'est pour ça que c'est un teaser. Mais on sent que ces tanins, sans être désagréables, ont quand même... c'est des adolescents, ils ont des boutons, hein. Voilà. Mais ils vont fleurir à l'âge adulte. Par contre, une fois de plus, la charge tannique est quand même moins forte que pour les cuvées que je connaissais sur cette année-là.
2020. Sol, on est sur des sols calcochisteux. Donc schiste, mais avec du calcaire. Donc ce qui donne. Enfin, ce qui est assez, encore une fois, c'est assez caractéristique de la vallée de la Glie et du domaine national.
C'est un de nos grands terroirs. Hein. Et puis, alors, c'est une région où on a les morilles aussi. Qui sont des vins trop méconnus et que je trouve tout à fait intéressants.
Rouge liquoreux.
Les rouges liquoreux, voilà. Des vins mutés, donc. Hein.
Du VDN, savez, du coup.
Vin doux naturel.
Ouais. Voilà, vous savez d'ailleurs que la mutation, je ne sais pas si vous connaissez, parce que ça n'a rien à voir avec la mutation dont on parlait, génétique dont on parlait tout à l'heure.
J'imagine, oui.
En fait, ça vient de la même racine que muet. Donc la mutation, là, n'a rien à voir avec la mutation génétique. Cette mutation, ça a à voir avec muet au sens de changer de voix. On parlait d'adolescence tout à l'heure. C'est que vous avez votre vin qui commence à se faire, la cuve pétille sous la fermentation, vous ajoutez l'alcool et vous le faites se taire. C'est d'ailleurs, l'anglais garde ce terme mute.
Mute.
Pour faire taire un appareil électroménager qui fait du bruit. Donc, j'en reviens à mes morilles, dont je voulais prendre la défense, parce que finalement, c'est des portos dans l'idée. Mais c'est des portos qui n'ont pas le prix des portos et qui n'ont pas leur réputation, alors qu'ils ont un potentiel énorme, notamment le potentiel d'enchanter les fromages.
Exactement.
Parce que bon, il faut aussi faire une petite parenthèse.
On défend beaucoup les vins doux, mais on a un peu de...
Oui.
C'est pas l'air du temps, quoi.
Oui, et...
Quelqu'un rit avec... grand plaisir.
Oui, voilà.
C'est du bien dégusté.
Le plaisir du vin. Et donc, justement, moi, j'essaie de les défendre aussi comme des vins à fromage. Je m'explique. Les fromages sont souvent un petit peu forts pour des vins délicats. Et souvent, en fait, on ouvre les meilleures bouteilles sur les fromages. C'est complètement paradoxal parce qu'en fait, on les casse. Sur les fromages, il faut jouer l'acidité. Bon. Et puis, il faut éventuellement jouer ces vins mutés qui sont plus enveloppants. Ils ont gardé beaucoup de tanins du fruit, ils ont le sucre. Et ça, sur des fromages, c'est plutôt ça qu'il faut.
Donc, à la grande vague, sinon vague, de vanter le blanc avec le fromage plutôt que le rouge, vous ajoutez le liquoreux avec le fromage.
Oui. Le liquoreux éventuellement, bien sûr, mais effectivement, les VDN, les vins mutés, oui, aussi. Mais c'est pas moi qui fais ça, hein, je veux dire, il y en a qui le font mieux que moi, j'ai appris ça chez eux.
On a abordé les grandes problématiques, après, vous dessinez des solutions. Alors après, c'est l'espace-temps qui est difficile à définir, mais sur comment aborder ces trois problématiques. On a abordé la problématique de la faiblesse génétique, de la biodiversité, des changements climatiques globalement, et de la nécessaire baisse des traitements aussi, hein, par rapport au goût du vin et par rapport aussi au
sol, quand même, au sol qui croise aussi avec le sujet de votre dernier ouvrage qui porte sur les sols.
Exactement. Ouais. Donc,
alors c'est le sol d'ailleurs où la vigne n'apparaît qu'en filigrane, puisque j'y parle du phylloxéra, mais c'est tout. Alors que les deux précédents, j'ai un chapitre sur le vin, sur les tanins et exactement. Sur les microbes, on ne pouvait pas éviter.
Donc qu'est-ce qu'on peut brosser comme on a parlé des cépages de la biodiversité.
Alors, on a parlé de diversité à l'intérieur de l'espèce avec les cépages modestes qu'on a oubliés mais qui peuvent donner des solutions ponctuelles. ou un réservoir pour faire des descendants demain avec d'autres provenances. Et là, on arrive à la diversité interspécifique avec tous ces cépages américains ou même asiatiques, dont certains, hein, je crois que c'est le vitis de l'amour qui rentre qui fabrique ses pépins au moment où nos cépages à nous sont déjà mûrs. Ça veut dire qu'il y a des réserves énormes hein, sur la précocité ou la tardivité. L'autre dimension de la biodiversité, c'est de réintroduire dans les vignes une diversité d'autres espèces. Alors, je vous en cite quelques-unes pleine-mêle. Il y a des vignobles où on remet des arbres. Bon, il y a ces vieilles coutumes de joual.
Oui.
C'est l'agroforesterie. Mais sans s'appeler agroforesterie, il y avait les joual autrefois dans le sud-ouest de la France, qui étaient en fait des productions mixtes d'arbres fruitiers et de vignes.
Prunier, amandier, etc.
Oui, et pêche de vigne. Hein, qui en fait tire son nom non pas du fait qu'elle est souvent riche en tanins et en anthocyanes, et donc rougeâtre, mais qu'elle était cultivée dans les vignes. D'autre part, on avait les cultures en hautain aussi, qui sont un petit peu oubliées, où on laissait la vigne grandir dans les arbres, et là, les arbres étaient tuteurs de la vigne. Et c'était des arbres qui étaient plutôt des arbres, eux, utilisés pour leur bois. Il y a aussi l'interrang. Les vignes, aujourd'hui, on les enherbe. Et c'est bien meilleur pour le sol, ça lui permet de se développer mieux, c'est bien meilleur pour l'accès à la parcelle quand elle est humide et qu'on a des engins à faire passer.
C'est même pour l'érosion.
Et effectivement, notamment pour le sol, c'est meilleur pour l'érosion, absolument. Qui est un vrai problème dans les agricultures qui labourent ou remuent le sol. On a des taux d'érosion qui sont augmentés d'un facteur 10. Et quand on est sur des coteaux, comme dans le vignoble, c'est une catastrophe. C'est ce qui avait conduit d'ailleurs les champenois, très tôt, à imaginer de broyer des sacs d'ordures dans les sols pour augmenter leur structure. Mais ça, c'était pas une très bonne idée, même si techniquement, ça assurait... la stabilisation des sols, les plastiques qu'il y avait dedans et les restes de métaux ont fait de cette idée une catastrophe. Donc effectivement, ça résout des problèmes de structure. Et puis, il y a aussi tous les alliés de la vigne. La vigne est alliée à des champignons dans le sol qui l'aident à exploiter le sol. C'est des choses qu'il faut renforcer parce qu'en plus, ils protègent les racines. Notamment, il y a de très beaux résultats qui montrent que plus une racine interagit avec ces champignons-là, moins elle est sensible à un nématode, le Xiphinema index, qui est l'agent en fait vecteur du cournouet de la vigne.
Un petit ver qui attaque la vigne, lui distille un virus.
C'est ça. En fait, en lui-même, il n'est pas grave, mais il introduit le virus. On a aussi sur les feuilles des alliés de la vigne. On sait par exemple qu'il y a des petits acariens qui vivent sur les feuilles de vigne, qui se réfugient, regardez bien sous la vigne, vous verrez, il y a des touffes de poils à la divergence des nervures. Ces petits acariens, en fait, ils se réfugient dans ces touffes de poils. C'est notamment des typhlodromes, pour donner des noms. Et quand ils sortent de la touffe de poils pour manger, ils mangent des champignons ou d'autres acariens.
Donc du mildiou, donc de l'oïdium potentiellement.
Donc ils protègent la feuille. Ceci dit, quand ils sont pris dans la tête du sulfate de cuivre, ils ne sont plus là. Et aujourd'hui, nos traitements, en fait, tuent les bons et les méchants. Les anciens connaissaient les typhlodromes. Hein. Moi, j'ai rencontré des vignerons qui me racontaient « Ah oui, bien sûr, on connaît ça !» On connaît, on regardait s'il y en avait sous les feuilles, et s'il n'y en avait pas, on ramenait des branches d'autres parties de la vigne, du vignoble, où il y en avait. Et on jetait les branches comme ça. Évidemment, les acariens, ils se barrent et ils passent sur les feuilles. Là. À partir d'un acarien par feuille, vous avez un effet protecteur. Donc, il y a réellement des outils pour demain. Je pense à l'agroforesterie par rapport au climat pour avoir des effets microclimatiques favorables. Je pense à mes acariens pour nettoyer les feuilles. Il y a des acteurs. Cette biodiversité, elle contient bien sûr des ch'touilles. Disons-le, le mildiou, l'oïdium, le phylloxéra, c'est de la biodiversité. La biodiversité, c'est pas bon ou mauvais, mais ça contient. Il faut pas réduire ça à l'étude des maladies comme source de compréhension de la biodiversité. Non, dans la biodiversité, il y a des outils et des leviers pour demain.
Est-ce que la biologie, cette science que vous pratiquez depuis déjà de nombreuses années, vous diriez qu'elle a été, si on reste sur le domaine de la vigne, un peu trop utilisée dans le sens technologique de la recherche d'un rendement, quitte à éteindre une grande partie de cette biodiversité, et qu'aujourd'hui on serait à l'aube d'une prise de conscience ou d'un renversement de tendance qui tendrait, et peut-être que vous appelez ça de vos voeux, à utiliser la science, toujours la science, c'est-à-dire de ne pas nier la science pour essayer de résoudre les problèmes que la science ou la science utilisée à mal escient a créé, utiliser la science pour résoudre ces problèmes, mais dans une autre direction, dans la direction de favoriser cette biodiversité.
Alors, bon, déjà, je voudrais
science
pas,
plutôt que technologie,
je pas
si je peux me permettre.
L'impression que la science va sauver le monde, hein, mais c'est le meilleur outil qu'on a à un moment donné pour essayer de juger certains gestes ou en imaginer de nouveaux. il faut bien que vous voyez que dans ma tête, la science, c'est un objet de la culture, et la culture, que ce soit celle de la vigne ou la culture des hommes, la dimension culturelle, ça évolue. Ça évolue. Quelque part, l'état de la science du début du siècle nous a permis de comprendre la malolactique, du début du XXe siècle, nous a permis de comprendre la malolactique et de mieux maîtriser les processus fermentaires. À l'aune de la science d'alors, c'était une bonne idée. Un petit peu avant, on a compris que les engrais minéraux et les pesticides, ça permettait de produire plus et plus régulièrement. Et d'ailleurs, on est tous sortis de l'époque où l'Europe subissait des famines. Donc, la science est quelque chose qui évolue perpétuellement. Et à chaque fois, elle nous souffle des solutions. Souvent, ces solutions ont des effets de bord. On a bien vu comment les engrais abîment les eaux continentales et abîment les écosystèmes. On a bien vu comment les pesticides abîment la santé d'abord des... Oui, puis abîment aussi la santé des agriculteurs, et notamment des viticulteurs. Donc, si vous voulez, à chaque... et ça, c'est une idée que moi, j'ai découvert dans les Lévi-Strauss, et à cause de Sébastien Lapac, que vous connaissez peut-être du Figaro, qui m'a filé, à propos de ce que je racontais, il m'a filé un extrait de Lévi-Strauss qui est absolument génial. Lévi-Strauss dit qu'en gros, ce qu'on appelle le progrès, c'est juste la façon de résoudre les problèmes des progrès précédents et de préparer les problèmes qui justifieront les progrès suivants. Donc, il faut être plein d'humilité. Nous ne sommes pas en train de trouver la solution. Il faut qu'on retrouve la nation, que l'évolution, c'est central. L'évolution de la vigne, avec sa capacité à faire des pépins et éventuellement à s'hybrider, et l'évolution de nos pratiques. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la vision qu'on a des sols nous souffle de nouveaux outils. Peut-être que demain, il faudra nuancer ça. L'histoire n'est pas finie. Mais aujourd'hui, on a un énorme réservoir, là, pour une autre viticulture. Ça va jusque dans la fermentation. Hein, on découvre aujourd'hui que les levures, elles viennent plutôt du chai que du champ, parce qu'elles ne sont pas habituées aux mêmes conditions dans le chai. Et la question, c'est comment préserver la biodiversité et le terroir que représente le chai, notamment quand on fait un nouveau chai. Oui,
Ensemencer le nouveau chai avec des levures.
On peut faire des pieds de cuve avec ses propres levures, et voilà comment on peut, en faisant des pieds de cuve comme ça, on peut lancer vite la fermentation, éviter les dérives du début de la fermentation, parce qu'on aura ensemencé, mais ensemencé local, en ayant éventuellement des traits identitaires du cellier.
Votre dernier ouvrage porte sur les sols, et j'aimerais qu'on termine là-dessus, parce que le sol, c'est... Alors, quand on parle de vin, c'est évidemment central.
L'origine du monde.
C'est l'origine.
Alors, vous reprenez ce terme magnifique d'origine du monde et on comprend.
Oui, alors j'ai découvert après, tout à fait par hasard, qu'il y avait un tableau qui portait le même nom. C'est une coïncidence malheureuse.
Que vous n'avez pas mis en couverture.
Alors, je suis vraiment confus.
Pour ne choquer personne.
Mais enfin, c'est pas très gaillard, ce qu'il y a à l'intérieur, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous ou inquiétez-vous, d'ailleurs, non. Si vous l'achetez sur le titre. Par contre, c'est bien l'origine du monde tel que nous le connaissons.
Exactement. Ce sol qui est tellement malmené est méconnu. C'est aussi ce qu'on découvre à vous lire. C'est-à-dire que, comme vous dites, à l'intention de ceux qui le piétinent, on marche tous les jours sur de la terre. À vrai dire, quand on vit en ville, pas vraiment. On a artificialisé tellement d'hectares de sol qu'on pourrait vivre en ville et ne jamais marcher sur de la vraie terre. Pourtant, ce sol, où qu'on soit, il est plein de vie, plein de biodiversité. Quel regard vous portez sur le sol, les sols tels qu'ils sont aujourd'hui? D'ailleurs, vous faites une petite intro pour dire le sol, c'est un drôle de terme. C'est un peu comme les microbes dans le premier livre. Vous cherchez à le réhabiliter, parce que quand on dit sol, sol...
Quand on dit cutéreux ou s'enterrer quelque part, c'est clair que ce n'est pas positif.
Il y a un terme qu'on utilise particulièrement en vin, qui est le terroir, qui correspond à un sol dans lequel on introduit cette notion de vie et en plus ce rapport à l'homme
de culture
et de culture.
Ouais. Alors c'est dit, bon, c'est vrai que dans le domaine du vin, le sol, la terre a quelques lettres de noblesse. Se dit, regardez bien comment ça se passe. Souvent, quand on vous parle du terroir de telle région, on vous fait plutôt une photo de paysage. Mmh. À la rigueur, vous avez des photos de surface du sol, mais on ne vous fait pas des microscopies.
On ne fait pas de carottes.
On ne fait pas des photos au microscope des bactéries qu'il y a dedans. Et pourtant, c'est ça, le sol, c'est quelque chose qui est difficile à attraper parce que ce n'est pas transparent, parce que les éléments constitutifs sont petits, que ce soit les argiles ou les limons, d'un côté pour les parties minérales, ou toute cette vie microbienne, c'est quelques 5 tonnes de bactéries et de champignons microscopiques qu'on a par hectare. Donc c'est vrai que c'est trop petit et pas transparent, et puis il y a cette connotation culturelle négative, et je reviens sur ces mots de cutéreux ou de s'enterrer quelque part, c'est un peu là où on met nos ordures, où on enterre nos morts, c'est pas positif. Or, c'est ce qui nous nourrit. Ça nous nourrit d'ailleurs jusque dans l'océan, parce que s'il y a de la fertilité dans l'océan, c'est parce que l'eau qui arrive dans l'océan par les fleuves a ruissé dans les sols et y a arraché du potassium, de l'azote, du phosphore. Donc les sols nous nourrissent d'eux. Jusque par le biais de l'eau, ils nous nourrissent en tout point et c'est eux qui font le c'est un des éléments importants du terroir. C'est eux notamment, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont être les agents de ce stress relatif qu'éprouve la vigne, un stress notamment hydrique, qui va pas être de nature à l'empêcher de pousser, mais qui va quand même l'obliger, à cause de coups de sécheresse, à cause aussi de forte teneur en calcium, qui va l'obliger à accumuler des défenses contre les stress, c'est-à-dire des choses qui limitent les dégâts liés au stress, ou qui, dans ces conditions difficiles pour pousser, limitent les attaques des indésirables. Parce qu'elle peut pas, enfin, un organisme qui pousse lentement, il accumule des défenses pour surtout que ce qu'il a produit ne se fasse pas manger. Et donc, finalement, le sol est un des constructeurs du terroir, absolument. Nul ne songe à le nier. Je pense que les gens qui connaissent le vin sont peut-être ceux qui sont le plus préparés à la noblesse du sol.
Alors comment défendre les sols aujourd'hui et quel regard déjà vous portez sur les sols aujourd'hui? Est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits? Est-ce que vous voyez une prise de conscience de ce point de vue-là?
Ça vient dans certains milieux. On a de plus en plus de vignes enherbées, par exemple, dans le vignoble, et c'est un signe. Disons que il faut l'expliquer, il faut rendre aux gens les clés du monde, hein, et c'est ce que les scientifiques font peut-être pas assez, voilà, et c'est ce que j'essaie de faire dans mes livres. Pour ce qui est du sol, alors là, c'est un peu le festival cette année. Hein. J'ai aussi publié une BD chez Dargaud avec Mathieu Burnia qui s'appelle Sous Terre, pour un public plus jeune, plus généraliste. On a dans l'exposition L'Odyssée sensorielle au muséum, que je vous recommande vraiment, où on plonge les gens dans des écosystèmes où il y a images, odeurs, sons, les explications sont à la sortie. On s'enterre dans une salle, on a une salle sous le sol, dont j'ai été le commissaire scientifique. Je travaillais aussi un joli documentaire sur le sol, avec Céline Bockel, qui va sortir bientôt. Et puis, il y a aussi toutes les vidéos sur Internet que j'essaie de poster, les cours filmés, les choses comme ça. Il faut absolument redonner les clés du monde aux gens, c'est-à-dire leur montrer d'abord comment c'est beau, parce que c'est beau. Voilà, il y a une esthétique de la compréhension et de ces systèmes hyper complexes et en même temps simples quand on rentre dedans. Et puis, il faut effectivement le faire absolument auprès de tout le monde, parce que finalement, c'est les consommateurs qui, à un moment, par leur carte bleue, valident des procédés de production. Si c'est pas juste un problème d'agriculteur, on fait souvent de l'agribashing, on reproche aux agriculteurs ce qu'ils font. Enfin, la bouffe qu'ils produisent, il y a des gens qui la mangent et qui justifient financièrement les filières de production. Donc, il faut vraiment l'expliquer à tout le monde.
On pourrait ajouter peut-être le politique qui autorise la mise sur le marché de produits qui sont délétères.
Et moi, je pense que les politiques sont des gens comme tout le monde. Alors peut-être que certains ont le sentiment d'être des premiers de cordée, mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on est tous dans la même barque et qu'il y a ceux qui rament, mais ceux qui cherchent la direction. Mais
certains ont la capacité de réguler.
Mes citoyens...
Et d'autoriser des pratiques.
Comprenez les politiques. Mais vous savez, ils autorisent ce qu'on leur fait autoriser d'une certaine façon en démocratie. Donc je sais que c'est compliqué, je vois froncer les yeux, mais c'est aussi une question de bulletin de vote au fond. Et donc ça retombe sur nous tous in fine. On a les politiques qu'on mérite, il faut s'en rappeler. C'est assez cocasse en ce moment d'ailleurs quand on regarde l'actualité de se dire que finalement on n'a que ce qu'on mérite. Mais revenant là-dessus, il faut redonner à tout le monde effectivement les clés du monde et notamment une compréhension de ce qui se passe pour pouvoir finalement juger en connaissance dans l'état actuel des connaissances, sachant que ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est variable.
Faire les choses en toute bonne foi, quelque part.
Bah oui, oui, c'est ça.
En l'état des choses qu'on maîtrise. Oui.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que chez nous, les sols ne sont pas morts. On dit souvent, pour alarmer, que les sols sont morts. Il y a un très bel atlas des bactéries du sol de France, piloté par l'Hydra de Dijon, qui est paru il y a quelques années aux éditions Parthenope et Muséum, qui nous raconte quoi? Que plus on traite, plus on gère le sol, notamment plus on le laboure, plus le sol est appauvri en microbes. Moins il y a de cellules de microbes. Et le paroxysme, c'est un peu la vigne et le verger. Le verger intensif. Mais, quand on regarde le nombre d'espèces, on s'aperçoit qu'il y a partout autant d'espèces. Ce qui est en train de se passer, c'est que chaque espèce est en train de perdre des membres. Alors c'est une perte de diversité génétique, mais on n'a pas perdu les espèces. Elles sont en voie d'extinction, le nombre des individus diminue, le verre est à moitié vide, mais il est à moitié plein, le verre, c'est le moment de le dire, parce que toutes les espèces sont encore là, avec des bons gestes. c'est-à-dire en choisissant la façon dont on gère les sols, la fréquence du labour, sa suppression éventuelle, les plantes qu'on sème, on peut réveiller ça. Les sols sont une belle au bois dormant. Il y a encore toute la diversité et donc il est encore temps d'agir. Voilà un des domaines où les nuisances de l'homme sont réversibles car on n'est pas allé trop loin encore, rien d'irréversible n'a été commis. Par contre, il faut se grouiller là, il faut se sortir les doigts des fesses, pour parler crûment, hein, et vite. Et même comme consommateur, il nous faut absolument une agriculture qui préserve ça, parce que savez-vous, ces sols, eh ben, il leur faut des milliers d'années pour se fabriquer. Et donc, on doit les transmettre à nos enfants, car ils n'en referont jamais, nous n'en referons jamais. C'est vraiment quelque chose dont nous devons encaisser les intérêts, la production végétale, le vin par exemple, sans altérer le capital. Et ça, en ce moment, c'est pas sûr qu'on soit pas en train de l'altérer, mais il est temps de se reprendre.
Merci. Je crois qu'on partage pas mal de ces constats. Est-ce qu'à titre personnel, quand vous choisissez un vin, vous allez plus volontiers vers un vin bio, par exemple, vers un vin... On est en biodynamie, par exemple, puisqu'on est aujourd'hui à biodivin. Est-ce que ces notions-là vous...
Bah, je me fais souvent conseiller parce que je suis pas très bon moi en reconnaissance de bouteilles et de bon. Donc je me fais conseiller par mon caviste, par des amis. Et quand je vois qu'il est bio ou de biodynamie, alors on pourra parler de la biodynamie un autre jour.
Hein. On fera une autre émission parce qu'on a déjà fait trois sur le sujet.
Et puis surtout là, ce sera votre dernière, je pense, quand j'aurai dit tout ce que j'en pense. Non, en fait, je pense que la biodynamie, il y a des trucs qui sont géniaux, c'est les gens qui la font. Et le côté bio. Le côté dynamie, là, j'ai plus de problèmes. Je pense qu'il faudrait faire un inventaire. Mais enfin, moi, j'aime bien les vins de biodynamie. Oui,
ce que vous disiez, ça remet le vigneron dans son végétal.
Parcelle. Donc, moi, j'aime bien les gens qui font ça. Et un vin de bio ou de biodynamie, parce que c'est une forme de bio, tout de suite, ça me réjouit quand je vois que le vin qu'on me recommande, il a en plus ça. Mais j'aimerais, moi, avoir des labels bien clairs qui me disent, voilà, c'est fait sur un sol durable. C'est fait sur un sol qui ne s'abîme pas. Parce que ça, c'est quelque chose que la bio ne gère pas. On peut labourer en bio. Alors, c'est vrai que comme on n'utilise plus d'engrais chimiques, on utilise plutôt des engrais organiques, et ça, c'est plutôt bon pour le sol. L'agriculture biologique augmente les stocks de matière organique dans les sols, et c'est vraiment très bon. Mais ce n'est pas tout. Il y a un peu plus à faire pour que les sols soient vraiment durables, notamment autour du labour. Et donc, j'aimerais bien, moi, avoir un jour des labels qui me disent « Ok, il n'y a pas de pesticides, mais en plus, ces sols, tes enfants... » ils pourront en profiter. Il s'agit de nos enfants, là. C'est plus important que le vin, encore.
Merci, Marc-André Solas. Je pense que cette phrase peut tout à fait conclure notre échange. On va vous...
Et elle me coûte. Hein.
On va vous libérer. Merci infiniment. On va conseiller évidemment la lecture de vos livres. J'ai cité Jamais seul, qui parle de la vie microbienne. J'ai cité Les tanins, l'origine du monde. Non, ça c'est les sols.
Les goûts et les couleurs du monde.
Les goûts et les couleurs du monde sur les tanins. L'origine du monde, donc sur les sols. Vous avez cité cette bande dessinée qui est sortie ou qui va sortir ?
Qui est sortie au printemps dernier.
Qui est sortie au printemps dernier, excusez-moi.
Chez Dargo, donc.
Voilà.
Mathieu Burnier a fait un joli travail. En plus, c'est picaresque. Et donc, en fait, même si on s'en fout des sols, on tombe dedans. Quoi.
Et au Muséum d'Histoire Naturelle, où vous officiez...
L'Odyssée sensorielle.
Qui est une expo en ce moment jusqu'à...
Eh bien, je ne sais pas, mais je pense qu'elle va être prolongée tellement elle est bien.
Merci infiniment Marc-André Solas.
Merci de votre invitation. Et de ces vins.
En buvant ces deux très jolis vins. Patrice, tu nous rappelles les deux vins qu'on a dégustés ?
Alors, en blanc, nous avons eu Sambrena Tenuta La Novella, donc de Sambrena Bianco 2019. Donc, c'est un IJP de Toscane, dans l'appellation Chianti, même si ce vin n'est pas dans l'appellation.
Un blanc de noir de cépage.
Voilà, un blanc de noir étroit, cépage blanc qui viennent accompagner le Sangiovese vinifié en blanc. Et donc, Massamiel, elle, donc pour légende, 2020, donc à partir de Grenache Noir et de Carignan, sur des calcochistes, qui est un nouveau mot que j'ai appris aujourd'hui.
Les calcochistes, qui était le choix de notre invité.
Et d'ailleurs, je pose une question, est-ce que c'est des schistes à tendance calcaire ou est-ce que c'est des calcaires débités en schiste ? C'est ambigu.
Bonne question, j'aurais posé la question.
On va en parler.
Et voilà une question de biologiste. Merci infiniment, allez, à très bientôt dans la Terre à Boire.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.